talmudique. Arnaud Münster, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour d'Ernst Bloch, le philosophe de l'utopie et de l'espérance, qui, en ces temps difficiles que nous traversons, nous apprend encore à rêver. Un philosophe dont les amitiés avec Lukács, Adorno et d'autres témoignent de l'effervescence intellectuelle d'une époque dont la richesse nous nourrit jusqu'à aujourd'hui. Nourrit est bien le mot pour ce philosophe qui a placé la fin au centre de sa pensée, et nous avons évoqué la semaine dernière ce tissage du texte blochien avec le texte biblique qu'il a beaucoup commenté. Et j'aimerais aujourd'hui qu'ensemble, nous tentons de mieux comprendre l'homme et tout d'abord ses rapports avec le judaïsme. Certainement central ce rapport au judaïsme, puisque vous dites dans votre préface, Arnaud Münster, dans votre préface à ce livre intitulé « Du rêve à l'utopie », vous dites que Bloch est un grand penseur juif, et vous ajoutez une note étrange, en tout cas pour moi, dans laquelle vous écrivez entre guillemets, ce qui semble donc une citation, vous écrivez « juif par hasard, point d'interrogation ». Qu'est-ce qu'un juif par hasard, Arnaud Münster ?
Oui, juif par hasard, ça veut dire que Ernst Bloch est atypique dans la mesure où, même s'il est évident qu'il peut être considéré qu'il est un grand penseur juif, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une éducation traditionnelle juive à sa ville natale, Ludwigshafen sur le Rhin, où il est né comme fils d'un fonctionnaire des chemins de fer allemands, qui était assez assimilé, pas pratiquant. Et Ernst Bloch, donc, il a quand même fait sa bar mitzvah à l'âge de 14 ans, en 1899, à la synagogue de Ludwigshafen. Mais c'est plutôt pendant ses années d'études, notamment à l'université de Würzburg, et après avec ses rencontres, par ses rencontres avec notamment avec Walter Benjamin et Gershom Scholem, qu'il s'est approprié la tradition juive, et qu'il s'est approprié, qu'il a eu connaissance des textes fondamentaux du judaïsme. Vous savez, ce qui a joué un rôle très important, c'est évidemment la rencontre avec une étudiante à Würzburg, une étudiante juive dont le nom était Tona Gelbert, ainsi qu'avec le rabbin Schlesinger, qui lui ont fait connaître la Torah, les Talmud et les classiques du judaïsme. Tandis que ses contacts ultérieurs avec Gershom Scholem et Walter Benjamin ont contribué à le familiariser avec les grands textes classiques de la Kabbale, le livre Bahir, le livre Zohar, etc. Donc, bien sûr aussi, il était aussi pendant ses années d'études lecteur des récits chassidiques de Martin Buber. Et on pourrait dire que ces cinq contacts ont beaucoup renforcé son identité juive. Mais pas son éducation familiale, parce que ses parents, très assimilés, non religieux, ne l'avaient pas envoyé à l'école juive, à la yeshiva de sa ville natale de Ludwigshafen sur le Rhin en Allemagne. Donc il n'a pas fait Talmud Torah, mais il a quand même fait sa bar mitzvah. Donc, mais dans une ville industrielle, comme il explique dans ses entretiens, habité par la prolétariat pauvre, sans aucune vie culturelle importante. Mais dans ses années d'études à Würzburg, notamment après ses rencontres à Berlin avec Zimmel, etc., puis de rencontrer avec Benjamin et Scholem, surtout avec Scholem. Là, il a pu s'approprier, évidemment, toutes les connaissances, la tradition, une grande partie de la tradition juive, ce qui l'a marqué quand même d'une manière assez efficace et significative, je pense, parce que je peux vous citer, si vous permettez que je vous cite une lettre. J'ai trouvé une lettre dans la correspondance de Bloch, il figure une lettre à un certain docteur Mulon, c'était un de ses amis pacifistes qui s'était excédé en Suisse en 1916. Cette lettre datée du 22 novembre 1918, une lettre où il dénonce entre autres l'antisémitisme de Hugo Ball, le fondateur du mouvement du dadaïsme de Zurich, et puis il dit, Ball, c'est très bien, je cite, « que je suis un juif absolument conscient de mes racines, que je suis fier de mon peuple ancien et mystérieux, et que ma patrie est, pour ainsi dire, avec mes meilleurs comtés, le sang juif et la grande tradition religieuse de mon peuple. Voilà, donc c'est ce qu'il dit dans cet état. Il continue à dire, mais notre essence même, notre côté Ancien Testament, le Sinaï en nous-mêmes, notre a priori, ne peut pas être atteint par cette critique. Donc, voilà, je pense que c'est clair. Hein.
Oui, c'est très clair.
Ça date 28 novembre 1918, donc c'est une sorte d'attestation, évidemment, de cette fierté d'être juif, alors que vous trouvez aussi dans un autre texte, n'est-ce pas, le texte symbole, les Juifs écrits à Heidelberg en 1913, donc qui figure seulement de la première édition de l'Esprit de l'Utopie de 1918,
oui.
Et qui est sans doute la première manifestation littéraire et philosophique de l'attachement profond du jeune philosophe Ernst Bloch au judaïsme et à ses valeurs.
Oui.
On y apprend, voilà, donc
pourtant,
l'orgueil juif s'est de nouveau réveillé,
oui.
L'assimilation, et critique de l'assimilation, il parle du peuple du livre, du peuple de la Torah, de la grande spiritualité du peuple juif, vous voyez.
Donc, oui, alors c'est très important ce que vous dites, et pourtant, dans l'édition de 1918 de l'Esprit de l'Utopie, ce chapitre intitulé « Symbole de point les Juifs » va disparaître. Quel est le sens de cette disparition, de cette réflexion sur les Juifs dans l'édition de 1918, Arnaud Münster ?
Bien, il va disparaître, ce texte n'a pas été repris, évidemment, dans la réédition de l'Esprit de l'Utopie en 1923. Mais je dirais que ça ne signifie pas un abandon de la part d'Ernst Bloch ces convictions, ces convictions profondes de cette identité juive qui s'est construite chez lui un peu plus tard, peut-être que chez les autres, parce que ce n'est pas un fait d'éducation évidemment, mais c'est une résultat donc d'une auto-éducation par lui-même, d'une appropriation des sources judaïques.
Oui.
Lorsqu'il était étudiant à cette époque-là. Il n'a pas jamais voulu abandonner cela parce que dans ses écrits ultérieurs, même dans son livre sur le matérialisme de 1935 et encore dans le principe espérance, vous allez trouver une sorte de reconfirmation justement de cet attachement au judaïsme.
Alors cet attachement
profond au judaïsme de la part de Ernst Bloch.
Alors cet attachement profond, en tout cas l'un des aspects importants, c'est son rapport à Moïse et au messianisme. Ce rapport au futur est pour lui essentiel, un rapport au futur de ce qui n'a jamais été et qu'aucun œil n'a vu, comme dit le Talmud, que rapporte Lévinas commentant Bloch. Quel est ce rapport essentiel de Bloch à Moïse et au messianisme, Arnaud Münster ?
Comme Walter Benjamin, Ernst Bloch affirme la conviction d'une histoire messianique de l'histoire. Comme pour l'auteur des thèses philosophiques de l'histoire, l'eschatologie apocalyptique du judaïsme, avec son attente millénaire du Meshia, du Messie, donc, et son autre concept clé qui est le tikkun, restauration, rétablissement du royaume de Dieu, réforme salutaire du monde. Donc, aussi un concept clé de la Kabbale.
Oui, oui.
Tout ça s'enchevêtre avec la vision de l'apocalypse salutaire, hein, préparant le retour du Messie.
Oui.
L'annihilation du mal, purification morale du monde, etc. Donc, et c'est exactement cette vision que déploie Ernst Bloch dans le dernier grand chapitre de son premier grand livre, L'Esprit de l'Utopie. Voilà, je ne cite qu'une seule phrase, vous voulez, c'est aussi toutefois l'appel au Messie, à suffisamment de lumière, pour atterrir les mains salvatrices, pour assurer la grâce d'arriver au port, pour éveiller les forces bénéfiques vivifiantes du royaume du Shabbat, et pour qu'ainsi l'incendie de l'apocalypse brutale, satanique, asphyxiant soit étouffé et surmonté à l'instant même de sa victoire. Donc, autrement dit, l'ange de l'histoire de la Kabbale, évoqué par Benjamin, donc, il ne regarde pas chez Bloch exclusivement vers le passé, vers l'histoire de l'humanité comme un champ de ruines, comme chez Walter Benjamin, hein, mais il porte aussi, donc, de par sa chute, le flambeau, la lumière de l'avenir. Il prépare et accompagne, pour ainsi dire, le Messie dans sa victoire finale sur le mal dans le monde. C'est ce que vous trouvez dans l'esprit de l'utopie. Hein.
Alors, ce qui est important, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, que ce temps messianique qui nous amène vers une fin n'est pas réalisé entièrement, c'est-à-dire que c'est une tendance. Il existe, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le temps messianique est une tendance. Le Messie n'arrive pas chez Ernst Bloch. Où arrive-t-il? C'est une question que je vous pose.
Oui, non, il est, c'est justement, c'est l'espérance qui comporte toujours aussi l'espérance de la Messie. Mais évidemment, on peut dire que Ernst Bloch, ça a été un peu sécularisé par Ernst Bloch, transformé dans le sens que, pour lui, évidemment, cette rédemption, il y a une convergence de cette vision de la rédemption avec l'arrivée du Messie, avec, disons, l'arrivée donc du royaume de la liberté, hein, finalement, de Marx. Donc il y a un enchevêtrement, comme le souligne Hans Bloch, dans la religion juive, hein, le messianisme, c'est l'utopie qui permet au tout autre du contenu religieux d'être médiatisé sous une forme, donc grâce à laquelle il échappe au danger de la consécration des maîtres ou de la théocratie. Donc ce qui voudrait dire que la croyance juive, hein, donc malgré toutes les codifications de loi qui sont intervenues au cours de l'histoire, en dépit de tout ce qui a été critiqué par certains comme le formalisme de la loi, de la synagogue, oui, a pu conserver vivant, en son cœur même, cette foi en un Messie. Hein. C'est encore une fois Ernst Bloch qui nous rappelle à ce propos, hein, cette affirmation de Maïmonide dans le guide des égarés, hein, que celui qui nie le messianisme nie la Torah tout entière, hein,
oui,
tout en soulignant que ce n'est pas un mystique qui dit ça, mais un rationaliste.
Oui.
C'est-à-dire, il y a donc dans ce messianisme juif, il y a un pôle négatif, c'est l'Égypte, c'est le pharaon.
Oui. Hein.
Donc, c'est le peuple juif en esclavage, en Égypte, il y a un pôle positif, c'est Canaan. C'est Canaan, mais sans l'Égypte, affirme Bloch dans le chapitre consacré à Moïse,
oui,
hein, dans le principe espérance, n'existerait ni l'exode, ni l'évidence du messianisme, mais il suffit que l'Égypte fasse irruption dans la mer pour que s'ouvre la voie qui mène à Canaan. Hein. Évidemment, Bloch est absolument convaincu donc, que le Deus Spes, le Dieu de l'espérance, il est déjà préfiguré chez Moïse. Donc, mais si l'image du Messie n'apparaît que 1000 ans plus tard, c'est tout simplement parce que le messianisme est plus ancien que la foi dans le Messie,
oui,
affirme Bloch. Il a ses origines, ses vraies origines, il les a dans cette attente, dans cet espoir, dans l'espoir d'un peuple opprimé et tenu en esclavage en Égypte par les pharaons, et donc par cette espérance inébranlable de l'avènement d'un monde meilleur, dans l'avenir, dans la rédemption.
Mmh.
Et c'est déjà Moïse, dit-il, qui a annoncé ce Dieu de l'espérance à son peuple.
Oui. Alors, il existe, selon Bloch, des moments privilégiés où l'obscurité du sujet est traversée d'un rayon venant comme de l'avenir utopique. Et là est laissée une place à la conscience de la gloire de l'utopie en l'homme, la formule est de Bloch, dans son principe espérance. Et ces instants où la lumière de l'utopie pénètre un instant dans l'obscurité du sujet, Bloch l'appelle étonnement. Étonnement qui est question, dit Lévinas, dans son commentaire de Bloch. Le concept de la question est absolument central chez Bloch, puisque c'est le fait qu'il y a toujours encore quelque chose à venir. Arnaud Münster.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il faudrait peut-être souligner donc, l'étonnement, ce qui est l'étonnement vraiment pour Ernst Bloch. Donc évidemment, c'est ce questionnement premier donc, qui suggère tout le début de la philosophie, pour Platon comme pour le Talmud, comme
oui,
pour Ernst Bloch. Mais ce n'est pas justement l'étonnement, ce n'est pas une réaction, comme dit-il, mais on peut dire que c'est un acte délibéré, volontaire, totalement actif et créatif à la fois, comme vous le souligniez vous-même. Hein. C'est que l'origine de cet étonnement ne se trouve pas dans le monde, mais l'est dans l'homme. Hein. Mmh. L'étonnement doit porter sur tout ce qui nous entoure, sur le temps, l'espace, les choses, les hommes, les animaux, les plantes, les outils, nous et nous-mêmes. Il peut aussi nous porter, dirais-je, comme Ernst Bloch l'indique, hein, dans son premier grand livre, L'esprit de l'utopie, à la fois vers le chemin de l'intérieur, nous conduisant à la rencontre de soi-même et vers le chemin de l'extérieur,
oui,
hein, même vers l'inimique. Mais pour Ernst Bloch, l'homme, donc, il n'est pas essentiellement un être traditionnel,
oui,
mais c'est un être en devenir.
Oui.
C'est l'homme pensant et travaillant, capable de transformer le monde et dans le but de créer un monde meilleur.
Oui, alors j'ai vu une réflexion qui pour moi est extraordinaire. Dans son livre qui s'appelle Experimentum Mundi, qui commence par une idée très insolite qu'il appelle la rotation. Et il dit, la rotation, c'est le fait que la tête accepte de se tourner pour regarder autour d'elle-même. Et j'ai trouvé ça génial dans la mesure où, en hébreu, le visage, qui se dit panim, vient du verbe pano, qui veut dire justement tourner la tête, cette rotation de la tête. Et pour moi, pour la première fois, j'ai compris le sens du visage de manière complètement nouvelle. Cette acceptation de tourner la tête autour de soi pour s'émerveiller du monde. Arnaud Münster.
Je pense que c'est une autre description et définition de cet étonnement, de ce que l'étonnement est, signifie dans la pensée blochienne.
On va passer.
Vous avez parlé d'Experimentum Mundi.
Oui.
C'est très important.
Oui.
C'est ce dernier grand livre d'Ernst Bloch qu'il a achevé en 1975, donc deux années seulement avant sa mort.
Oui.
Et c'est la somme, on peut dire, la systématisation ultime de toute son œuvre, de toute sa pensée. C'est essentiellement une tentative de trouver une expression catégoriale du système ouvert, blochien, qui est opposé au système clos de Hegel.
Oui.
Mais c'est plus qu'une révision, je dirais, c'est plutôt un dépassement du système kantien des catégories,
oui.
Du système aristotélicien des catégories.
En ce sens, on peut dire qu'il est proche de Rosenzweig dans sa critique de Hegel et de la totalité.
Il y a quand même la différence, donc à la différence précisément de Franz Rosenzweig, donc Hegel, Ernst Bloch ne va pas procéder à cette coupure radicale, à cette, on peut dire, ce rejet radical de Hegel, comme le fait Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption, justement parce qu'il reste toujours attaché, très attaché à la dialectique hegelienne, même s'il a critiqué évidemment les Hegeliens de droite et évidemment, la philosophie, un peu la philosophie du droit de Hegel, qui a toujours été considérée comme, disons, une sorte d'apologie de l'État prussien,
oui.
N'est-ce pas? Mais il est resté attaché à Hegel, il n'a pas voulu jeter Hegel avec ça, parce que pour lui, c'est le grand penseur de la dialectique, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle il a consacré aussi ce grand livre sur Hegel, sujet, objet, éclaircissement sur Hegel, qui a été écrit, on peut dire, en réplique, au livre sur le jeune Hegel, écrit par Lukács.
Je comprends.
Donc c'est le jeune Hegel,
oui.
Hegel de la Révolution française, etc. C'est pas le Hegel de la maturité, le Hegel de l'État prussien qui l'intéresse. Hein. Mais il fait cette distinction, il a différence de Rosenzweig, donc il est toujours resté dans votre dialectique hegelienne.
Arnaud Münster, nous sommes en train d'entendre un passage magnifique de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Les passions de Bach étaient chères à Ernst Bloch, comme toute la musique à laquelle il a consacré la moitié de son livre « L'esprit de l'utopie ». En quoi la musique nous dit, pour Bloch, quelque chose de si essentiel de l'utopie, Arnaud Münster? Et vous m'avez dit, lors d'une conversation que nous avons eue ensemble avant l'émission, que la veille de sa mort, à 92 ans, Ernst Bloch écoutait Fidelio de Beethoven, Arnaud Münster.
Oui, oui. Il écoutait le Fidelio de Beethoven, justement, la veille de sa mort, comme s'il avait eu le pressentiment qu'il était vraiment arrivé à la fin de sa vie. C'était le 4 août 1977 à Tübingen. Et il avait demandé à sa femme, justement, de choisir ce passage, justement, du deuxième, au début du troisième acte du Fidelio, n'est-ce pas, qui commence par ce motif des trompettes. Mmh. Il y a là motif sur retraite de trompette, donc qui est extraordinaire et qui, selon Ernst Bloch, justement, est l'expression même donc du caractère extrêmement utopique de l'utopie ou de ce que le langage musical peut transmettre comme essence utopique. Ce signal de trompette annonçant l'arrivée du ministre avec le message donc de la libération de Florestan qui est donc en prison, emprisonné depuis des années dans son cachot, attendant sa libération, etc. Évidemment, et Bloch admirait cette musique, et tout simplement parce que pour lui, donc ce passage, donc ce motif de trompette et tout ce qui suit le troisième acte du Fidelio, qui va déboucher finalement à la libération de Florestan. Voilà, pour lui, alors c'est un message, c'est plus qu'une musique, c'est un message, un fanal finalement pour la libération de l'humanité tout entière, de l'oppression, de la tyrannie, etc.
Et pour lui, la musique était plus forte que les mots ou que la philosophie ? C'est une question que je vous pose.
En un sens, oui, que la musique est l'utopie par excellence. Elle est quelque chose, son essence est souvent indescriptible, parce qu'elle va directement au cœur, à l'âme, n'est-ce pas ? Donc, elle est plus presque ce sublime évoqué par Kant, hein, dans la critique de la faculté de juger dans son esthétique. Vous savez, Ernst Bloch, cette philosophie de la musique de l'esprit d'utopie que vous avez évoquée, alors c'est l'esquisse d'une métaphysique de la subjectivité expressive.
Oui.
C'est ça. Et essentiellement, donc. Et où Bloch reprend, rediscute donc les principaux concepts, les thèmes de son premier grand livre. C'est-à-dire, il parle du son, il parle de son. Il y a l'élément constructeur élémentaire de toute œuvre musicale. C'est évidemment donc quelque chose qui se rattache non pas exclusivement à moi, mais aussi simultanément à un moi et à un nous, dit-il, hein, dans cette grande philosophie de la musique, l'esprit de l'utopie. Parce que voilà, au début, il y a le son. Qu'est-ce que c'est le son ? Parce que le son, il exprime quelque chose qui est encore muet dans l'homme lui-même, mais qui va finalement s'extérioriser. C'est quelque chose qui jaillit et bouillonne du désir que l'on a d'être soi-même, désir inquiet qui s'y s'écoute, aspiration qui prend forme, agitation en soi qui se fait sonore, en tant que mélodie qui s'étire solitaire, ou s'entrelace avec d'autres, mais figure toujours des traits humains visibles. C'est donc un bonheur d'aveugle qui s'ébauche ici, en deçà de tout comme au-delà des choses telles qu'elles existent. Et c'est comme ça, elle a aussi compris la musique de Bach, hein,
oui.
Grande passion, etc. Hein.
Oui, alors,
donc,
justement, dans...
Il est...
Excusez-moi, alors, justement, en vous écoutant, je sens la distinction qu'il y a entre la vision d'un paysage, par exemple, et une musique, parce que la personne qui regarde un paysage peut rester et s'abîmer dans ce regard, parce qu'il n'est pas troublé par autre chose. Et tout à coup, si derrière lui ou à côté de lui, il y a une musique, un son, il va tourner la tête vers cette altérité, vers cette autre chose. Et on retrouve cette notion de rotation, du mouvement du corps qu'on a évoqué précédemment. Et j'ai l'impression que là, il se rapproche encore du judaïsme que nous avons aussi évoqué, à savoir cette préférence ou cette prééminence de l'écoute sur la vision, sur le chemin Israël, écoute Israël, parce que dans l'écoute, on a justement cette ouverture à l'autre, cette inquiétude et cet émerveillement pour ce qui est différent. Arnaud Münster.
Oui, vous n'avez pas vraiment raison de souligner cela. Je pense, oui, d'abord, chez Herzberg aussi, c'est tout à fait clair que l'écoute l'emporte sur la vision, sur la contemplation.
Alors, nous avons...
Dans cette écoute et dans le centre, il y a quelque chose, donc, justement, l'essence. Vous savez, donc, il parle, donc, évoque sa philosophie de la musique. Alors, il y a le son, la mélodie, le mélos, pour lui, c'est le chant intérieur de l'homme, c'est ce chant. Vous savez, qui est défini en droit précis de son livre comme, je cite, « le franchissement et le monde le plus intensément humain qui soit dans la musique ». Comme ça, il parle, dans le principe espérance, il parle aussi, il évoque aussi un cri extériorisant une pulsion.
Oui.
Donc ça veut dire que l'origine de la musique se situe selon Bloch, donc dans l'antiquité grecque, au moment précis où le son de la flûte de Pan, de la flûte champêtre, était censé parvenir aux oreilles de la femme aimée, aussi éloignée qu'elle fût.
Alors, nous évoquons cette femme aimée, nous évoquons l'autre, l'altérité, et nous avons évoqué quelques-uns des maîtres de Ernst Bloch. On a parlé de, vous l'avez évoqué, on a parlé d'Ami, on a parlé de Scholem, on a parlé de Binyamin. Mais Bloch fut lui-même un enseignement passionné et passionnant. Il enseigna très tard dans sa vie, vous l'avez dit, il est mort à 92 ans, il a enseigné jusqu'à la fin, et vous avez été son élève à l'université, Arnaud Münster. Quelle sorte d'enseignant et quelle sorte de personne était-il ?
Je dirais que Ernst Bloch était un professeur tout à fait exceptionnel. Il était le contraire absolu du professeur universitaire allemand ordinaire, hein, rigoureux, pointilleux, etc., qu'on imaginait. Donc, il était tout à fait atypique. Par exemple, faisant ses cours souvent librement, à partir de quelques notes seulement, griffées sur des petits bouts de papier. Mais sur ces notes, il y avait des concepts philosophiques, il y avait un système de corrélation entre ces concepts notés sur ces petits bouts de papier, etc. De cela, il faisait des grands cours magistraux absolument merveilleux. Il ne lisait pas ses notes, ses cours magistraux, comme le faisaient la plupart de ses collègues d'université. Oui. Il avait aussi beaucoup d'humour, je dirais, d'un humour juif. Dans l'évocation, dans l'analyse, dans ses analyses philosophiques. On pourrait dire aussi, peut-être qu'il y avait aussi chez lui une sorte de sagesse talmudique ou en même temps socratique. Par exemple, lorsqu'il aborde dès dans ses cours à Tübingen le rapport de la théologie à la philosophie, ou tout simplement celle de l'existence, savoir celle de l'obscur du moment vécu dans le quotidien, ou bien celle de l'étonnement, qui depuis Platon marque le début de tout philosophie, donc ce questionnement primaire déclenchant la réflexion philosophique dont nous avons parlé tout à l'heure. C'était aussi un homme faisant preuve d'une érudition exceptionnelle, aussi vraiment d'une capacité d'écoute exceptionnelle, qui nous impressionnait énormément, nous étudiants à l'époque, rassemblés dans l'amphi, ou dans le séminaire privé qui avait lieu tous les mercredis de la semaine, de 18 à 20 heures, dans le sous-sol aménagé en salle de cours de sa maison à Tübingen. D'ailleurs, cette maison qui est située non loin du fleuve Neckar et de l'île de Neckar, et située aussi à proximité du célèbre Stift, du collège de théologie de Tübingen, dont les pensionnaires les plus célèbres à l'époque étaient bien le jeune Hegel, le jeune Schelling, le jeune Hölderlin.
Merci Arnaud Münster pour ces deux semaines de découverte avec vous de la pensée de Ernst Bloch, que l'on sent attachant à la fois dans ses écrits et sa personne. Vous m'avez dit avant l'émission qu'il avait dans ses cours parfois une attitude prophétique. En tout cas,
oui, tout à fait, oui. Il avait souvent parfois une posture d'un prophète. Par exemple, lorsqu'il évoquait dans ses cours, lorsqu'il évoquait le messianisme, lorsqu'il évoquait le rôle des prophètes dans la Bible, ou par exemple celui d'un Thomas Münzer, théologien de la Révolution, hein, qui avait incité, avec des citations de la Bible à la bouche, les paysans allemands, très opprimés par les seigneurs féodaux, à se révolter.
Oui. Oui.
C'est-à-dire, je dirais, il incarnait en un sens son engagement philosophique et politique.
Oui.
Donc, cet engagement pour la justice, pour la paix, pour la fraternité.
Oui.
Et en ce sens précis, il pourrait bien être comparé un petit peu à Martin Buber, oui. Mais à la différence près que le noyau central de sa pensée, ce n'est pas le principe dialogique, ce n'est pas le je et le tout, le tu de Buber, mais une pensée utopico-messianique de l'espérance.
Alors une pensée utopico-messianique de l'espérance qui nous parle beaucoup aujourd'hui, une pensée dont je sens une proximité que j'ignorais. Et vous voyez, je me suis régalé. En le lisant, en le relisant, j'ai senti une familiarité qui me questionne et ouvre à un nouveau plaisir de lire et de relire. Et je suis sûr que les auditeurs ont ressenti la même chose. Le désir de chercher de nouvelles passerelles entre les philosophies et les textes. En tout cas, merci de nous avoir fait ce cadeau et réveillé en nous ces graines d'utopie, fulgurance d'étincelles en provenance du monde qui vient. Olam Haba, dit l'hébreu. Merci encore Arnaud Münzer.
C'est moi que je vous remercie. Merci beaucoup.
Je rappelle le titre du livre que vous publiez aux éditions Hermann, qui est intitulé Ernst Bloch, du rêve à l'utopie, entretien philosophique. Et je tiens à dire aux auditeurs que ce sont des entretiens extrêmement faciles à lire, qui nous ouvrent à la pensée de ce grand philosophe. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, à Nice, Pierre Schwab, à Paris, Philippe Palares, à la réalisation, Dany Journeau. Vous retrouverez tous les détails concernant notre invité sur le site de l'émission. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.